Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel.
Pour cet agenda, nous vous proposons deux événements qui se déroulent tous les deux le samedi 21 octobre au LAG. Tout d'abord, le samedi matin, de 10h à midi. Il s'agit d'un événement d'échange, de discussion, de débat sur la thématique travail, féminisme et décroissance. C'est également un véritable moment d'éducation populaire, à l'occasion duquel on pourra penser ensemble et s'enrichir, à propos donc de l'articulation entre ces trois termes. Le travail, le féminisme, la décroissance. Cette matinée d'échange est organisée par les objectrices et objecteurs de croissance du Pas-de-Calais et le LAG. L'entrée est ouverte à toutes et à tous, que vous ayez envie d'amener et de partager des idées ou tout simplement envie de découvrir des idées neuves. C'est donc au LAG, 23 avenue Jean Jaurès, à Liévin, le samedi 21 octobre de 10h à midi.
Le deuxième événement de notre agenda micro-rebelle hebdo se tient donc également le samedi 21 octobre. Mais cette fois-ci, c'est un concert en soirée à partir de 20h30. C'est également au LAG et, en plus, il y a un autre point commun avec l'annonce précédente à propos de féministes. C'est le fait que le groupe qui anime ce concert est composé uniquement de femmes. C'est le groupe Bazar Anana. Elles sont déjà venues au LAG. Embarquées dans un voyage féerique, elle mélange polyphonie et styles musicaux et conte des fées et non pas conte de fées. Pour leur nouveau spectacle, elles sont de retour au LAG et elles ne sont pas contentes. Je vous rappelle les aspects pratiques. Concert Bar Anana le 21 octobre à 20h30 au LAG. L'entrée est à prix libre.
Un autre événement dans notre agenda, toujours le 21 octobre, le samedi 21 octobre, c'est le vernissage de l'exposition Kenneth Larson, peintre et révolutionnaire. Alors Kenneth Larson, c'est un architecte de formation, mais c'est aussi un militant internationaliste qui a partagé sa vie entre les États-Unis, son pays natal, à Kenneth Larson, et la France. Donc cette exposition, Kenneth Larson, peintre révolutionnaire, elle est visible jusqu'au 31 octobre, donc du 21 octobre au 31 octobre. Et le vernissage a lieu le samedi 21 octobre à 18h30. Ça se passe à la médiathèque Estaminet à Grenay, 2 Terres, rue Jules Guesde. On peut avoir des renseignements par téléphone au 03 66 54 00 54 ou encore sur le site internet de la médiathèque de Grenay, médiathèque-estaminet.fr.
Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Greg Duncan. Trompettiste freelance se produisant un peu partout dans le monde, l'Américain Greg Duncan joue un jazz contemporain et nerveux qui flirte parfois avec le blues, le swing et même le flamenco. 10 ans après ses débuts en tant que compositeur, il sort avec son nouveau quintet un premier album en hommage au psychanalyste suisse Carl Jung. Un jazz débridé au possible qui laisse s'exprimer tout son talent ainsi que celui de ses comparses. Le morceau qui suit s'intitule « Out on a Limb » que l'on pourrait traduire par « Dans une position dangereuse ».
Thank you.
C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur quelques actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, comme chaque semaine, en ce moment, nous faisons le point des actions qui sont menées contre les installations du compteur Linky dans le bassin minier. Puis, je vous propose de revenir sur le débat Penser Ensemble, organisé par la coopérative CLIS 21 avec la participation de Métalunette, sur le thème de l'informatique libre dans le monde du spectacle, notamment le spectacle de rue. Nous commençons donc par un point concernant la mobilisation contre les compteurs Linky.
Oui, et bien concernant cette mobilisation autour des compteurs Linky, on va commencer peut-être par faire un petit rappel de la situation, de ce dont il s'agit. Alors donc Enedis, Enedis c'est le nouveau nom de ERDF. Enedis a l'ambition de remplacer 35 millions de compteurs d'ici 2021, 35 millions de compteurs pour la plupart en très bon état de fonctionnement. Et pour le Pas-de-Calais, ça signifie remplacer 700 000 compteurs d'ici à 2021. Donc dans le bassin minier, on est en plein dedans cette campagne de remplacement de Enedis. Enedis qui sous-traite les remplacements de compteurs à différentes sociétés, notamment la société Satcom par exemple. Et actuellement, en cette fin 2017, ce sont les communes dans le bassin minier de Angres, Bully-les-Mines, Mazingarbe et Grenay qui sont concernées. En 2018, la première moitié de 2018, il y aura les communes de Lens, Losanguel et Helleux. Et en fin 2018, il y aura Liévin et Avion. En 2019, on aura le secteur de Hacheville, Billy-Montigny et Méricourt. En 2020, Vendin-le-Vieil, Loison-sous-Lens et Vingles. Et en 2021, Arne et Fouquières. Donc on voit qu'il y a une opération de remplacement des compteurs qui est planifiée d'ici 2021 sur l'ensemble du bassin minier, comme d'ailleurs sur d'autres territoires dans le Pas-de-Calais et partout en France. Et donc devant cette campagne de remplacement des compteurs Linky, partout en France, de nombreux collectifs se sont créés. Et c'est la même chose dans le bassin minier. On a notamment des collectifs qui se mettent en place à Angres, à Ablain-Saint-Nazaire, à Grenay, à Aix-Noulette, à Quéry-la-Motte. Et ces collectifs se mobilisent autour de plusieurs points, autrement dit refusent la mise en place des compteurs Linky pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est le coup de force de Enedis. Remplacer des compteurs sans aucune consultation, des compteurs en parfait état de marche. Enedis fait comme si ça n'était pas la peine de discuter, que c'est forcément quelque chose qui va nous intéresser. Et donc, à marche forcée, Enedis remplace les compteurs partout en France et dans le bassin minier. Donc ça, c'est une première raison, c'est en quelque sorte un déni démocratique, on n'aurait pas le droit de s'exprimer sur cette question. Enedis, c'est un mastodonte qui impose sa loi et les populations, les habitantes et les habitants n'ont qu'à s'exécuter. Une autre raison, ce sont les aspects sanitaires, notamment liés aux champs électromagnétiques. Autre raison qui mobilise les collectifs, les aspects financiers. On a de nombreux exemples de factures qui augmentent, notamment suite au changement de mode de facturation pour ces nouveaux compteurs Linky. On a des aspects sociaux, liés notamment aux coupures EDF à distance. Auparavant, quand il s'agissait de couper l'électricité, il y avait un employé qui se déplaçait, on pouvait discuter, il y avait la mobilisation des citoyennes et des citoyens de la ville ou du village concerné. Là, aujourd'hui, coupure à distance, c'est fait par un algorithme, c'est même pas la peine de discuter. Les aspects lié à ce qu'on appelle la transition énergétique et le développement durable. Pourquoi jeter à la poubelle 35 millions de compteurs en parfait état de marche? Des compteurs qui ont une durée de vie de 50 à 60 ans. Le Linky lui-même a une durée de vie de 15 à 20 ans. Donc c'est une opération qui risque de recommencer très régulièrement. À une époque où on parle de transition énergétique, c'est quand même, ça pose quand même un certain nombre de questions. Autres aspects, ce sont les aspects mouchardage. Le Linky est un compteur intelligent qui, toutes les 10 minutes, relève un petit peu les consommations et donc est capable de voir un peu quel type de consommation est mise en œuvre au sein de votre appartement ou de votre maison, à quelle heure vous prenez votre douche, à quelle heure la machine à café se déclenche, etc., etc. Donc il y a un aspect mouchardage qui est tout à fait nouveau. Et donc, conséquence de cet aspect mouchardage, c'est la revente de données. la revente de données à des sociétés industrielles et financières. Unedis entend se situer comme un opérateur du big data, autrement dit revendre un petit peu des informations qui nous concernent à des entreprises qui vont nous faire des propositions diverses et variées. Et enfin, un dernier argument qui mobilise les collectifs contre le Linky, c'est ce qu'on a appelé le monde de Linky. Autrement dit, le fait que Linky fait partie d'une galaxie de ce qu'on appelle d'objets connectés, qui vont entraîner le fait que ce sont des algorithmes qui vont décider à notre place de plusieurs éléments de notre vie, de remplacement de machines, de décisions à prendre. Ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent se délibérer au sein d'un foyer ou au sein d'un village ou au sein d'une communauté et qui là ne donneront plus lieu à délibération puisque ce sera des logiciels qui vont décider de tout ça à notre place. Alors tout ça pour dire que donc, cette mobilisation, elle ne fait que enfler partout en France. Et donc dans le bassin minier, cette mobilisation, elle enfle aussi. Il y a une colère qui est réelle contre les compteurs Linky. Et donc ce qui est notable, la grosse initiative qui est en préparation actuellement, c'est le 14 novembre. Le 14 novembre, c'est la tenue du conseil d'agglomération de la CAL, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc les élus de la CAL se réunissent à Lens le mardi 14 novembre à 18h. Et donc les collectifs Linky ont décidé de s'inviter en quelque sorte à ce conseil communautaire avec des pancartes, avec des tracts, avec des pétitions. L'idée, c'est de bien indiquer aux élus que les collectifs souhaitent que le bassin minier soit un territoire sans Linky et les collectifs souhaitent que les élus ne cèdent pas aux pressions de Enedis et que, au contraire, les élus prennent en compte la vie des gens, la vie des habitantes et des habitants de ce territoire. Donc ce sera le 14 novembre, le conseil communautaire est à 18h et les collectifs donnent rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par la question dès 17h30. Donc sur l'emplacement du conseil communautaire, c'est rue Lavoisier à Lens, au siège du conseil d'agglomération de la CAL. Donc rendez-vous à 17h30 pour accueillir les élus. Il y a la presse qui va également être invitée et les collectifs vont faire une demande d'intervention devant les élus pour expliquer un petit peu le bien fondé de leur action. Voilà, et donc peut-être un dernier petit point. Dans chaque ville et dans chaque village du bassin minier, il est question d'organiser un départ en covoiturage pour se rendre ensemble à Lens à 17h30 le mardi 14 novembre pour accentuer la lutte contre la mise en place des compteurs Linky.
Une autre actualité maintenant, la venue du collectif Métalunettes à l'invitation de la coopérative CLIS 21 dans le cadre d'un échange Penser Ensemble. Métalunettes fait partie d'un collectif d'artistes de rue qui s'appelle Métalu à Chahuter. Nous allons tout d'abord écouter Antoine qui nous présente l'activité de Métalunettes, puis nous donnerons la parole à quelques participantes et participants qui découvraient Métalunettes.
Donc, je m'appelle Antoine Rousseau, je suis à la fois musicien et électronicien et programmeur. Et je travaille dans le collectif Métalu, Métalu à Chahuter. Donc j'y fais essentiellement je fabrique des installations sonores, interactives, de rue. Donc des choses qu'on propose à la manipulation du public. Et puis c'est des jeux ou des instruments de musique, des trucs un peu bizarres qu'on voit pas ailleurs. Des machines pour hurler le plus fort possible, pour essayer de chanter, pour faire de la musique électronique en improvisation collective, des choses comme ça quoi.
Alors ces spectacles de rue, ça se présente comment ? C'est à l'initiative de collectivités, de festivals, comment ça se passe ?
Au début, on ne savait même pas trop ce qu'on en ferait. On a fait le Hurlomatic, c'est la machine à hurler, puis on l'a montré dans une fête à Métalu. Et puis ensuite, Métalu, à ce moment-là, a organisé un festival de rue à Lille, qui s'appelait les 400 clous, et donc on l'a montré dans ce festival, et puis donc dans un parc au jardin Vauban, et puis là on s'est aperçu que ça marchait bien, que les gens ils rigolaient bien et tout, donc on s'est dit bah on va dire que c'est un spectacle, et puis donc on le vend comme un spectacle de rue. Alors évidemment c'est un spectacle un peu bizarre parce que nous on est un peu planqué, on s'est même rendu compte que il fallait mieux qu'on soit planqué, parce que si on était présent, les gens s'intéressaient à nous et ils avaient tendance à vouloir parler avec nous, et du coup ils entendaient pas bien ce que leur disait la machine, que en fait si on disparaissait, bah du coup les gens nous voyaient pas et ils étaient focalisés sur la machine, ça marchait beaucoup mieux. Donc ça c'était assez marrant, et du coup on l'a diffusé comme spectacle, donc effectivement plutôt on va dire dans la région, mais ça peut être n'importe où, donc typiquement un festival de spectacles de rue où il y a déjà une programmation dans la rue, des concerts, des spectacles ou des expos, et puis ben voilà, les organisateurs nous appellent pour qu'on pose notre hurlomatique ou nos autres installations dans la rue. Donc oui, c'est plutôt des collectivités locales ou des organisateurs de festivals en règle générale, c'est plutôt ce genre d'occasion.
Alors donc Métallu HAUT, c'est une dizaine, à peu près 10 artistes, hein, très hétérogènes en quelque sorte. Tu peux donner quelques exemples un petit peu d'activités de cette dizaine d'artistes?
Ouais, alors ben effectivement c'est une dizaine d'artistes qui est réunie en collectif, mais chacun développe son propre travail. Donc par exemple, il y a des gens qui vont plus travailler sur la marionnette, mais des marionnettes un peu particulières parce que c'est des automates. Donc ça c'est le travail de Sandre Larouge, des automates faits en ossements d'animaux récupérés, c'est vraiment de la récup. Et donc à partir de ça, ils vont faire des petits personnages animés qui vont voilà être intégrés à une scénographie, à une mise en scène. Et ça peut être de un petit concert, ça peut être un casino, ça peut être toutes sortes de thématiques qu'ils développent. Donc là, c'est vraiment du spectacle plutôt en salle. Après, il y a d'autres gens, Delphine Séculac, qui s'occupe vraiment de ce qui est décoration, peinture, sérigraphie, costume aussi. Donc, par exemple, elle a un projet qui s'appelle Sous-bois, et qui consiste à installer des robes blanches dans des sous-bois la nuit, avec de l'éclairage, du son et des comédiens, des personnages qui vont habiter ce décor. Il y a Christophe Carpro et les prototypes qui vont plutôt réaliser des grosses sculptures géantes. Il y a eu une baleine en métal, en genre l'aspect c'est plutôt grosse ferraille rouillée, donc une grosse baleine qui se baladait dans les rues, et puis là maintenant c'est plutôt un gros bateau sur lequel ils font des concerts, dans lesquels ils font intervenir les habitants, ils font des ateliers, il y a toute une implication avec les habitants. D'autres gens vont plutôt travailler l'image, faire de la projection d'images sur des écrans mobiles. D'autres gens vont Laure Chailloux qui joue de l'accordéon et qui travaille beaucoup aussi très proche des gens, à faire des projets dans les quartiers, des projets un peu comme ça. Donc Alain Chautard et moi-même qui sommes plutôt sur les machines sonores et interactives. Dans Métallu, il y a un noyau qu'on a appelé Métalunette et qui s'occupe vraiment de... Enfin, Métalunette sert à parler des outils technologiques qu'on utilise et qu'on développe pour réaliser nos installations, en fait.
Alors justement, est-ce que tu peux en dire un peu plus là sur ce volet, en quelque sorte, votre utilisation de la technologie, hein, pour vos installations, hein, donc à Alain et à toi, d'une manière générale, mais aussi à l'ensemble des artistes de Métallu HAUT. Votre utilisation de la technologie, comment ça se présente? Quelle est un peu l'histoire que vous avez en matière d'appropriation de la technologie, d'évolution aussi de ce que vous faites?
Ben, donc, Moi, j'ai toujours considéré que la technologie, c'était un outil qui fait partie de la palette des outils de l'humanité, qui était vraiment intéressant, dont il était vraiment intéressant de s'emparer, avec en fond l'idée que c'est impossible d'épuiser, on va dire, les possibilités de ce qu'on peut faire avec ces outils technologiques. Mais même si on s'arrête aux outils du 17e siècle, l'imagination, quelque part, travaille presque moins vite, malgré tout, que la technique. Et du coup, elle est toujours un petit peu presque en retard, c'est-à-dire que même si on s'arrête à la technique du XVIIe siècle, on peut imaginer des tonnes de dispositifs incroyables qui scotcheraient tout le monde aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps de les penser, en fait, parce que cette technologie, elle a été remplacée par une autre, et puis par une autre, et puis par une autre. Et donc, alors après, chacun fait son choix et utilise les outils qu'il a envie d'utiliser. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ces nouveaux outils de l'électronique, du numérique, de la programmation informatique et tout ça. Et que ça me paraissait vraiment super intéressant par la souplesse et quelque part aussi l'accessibilité, le fait que ce soit pas très cher, en fait, comme outil quand on sait s'en servir. L'électronique, c'est vraiment de faible coût, en fait. La plupart du temps, les composants, ça coûte 20 centimes pièce, quoi. Donc et il suffit d'une vingtaine de composants pour commencer à imaginer des choses nouvelles. Donc moi, c'est toujours un peu ça qui m'a poussé, en me disant il faut qu'on moi j'ai envie de chercher ce qu'on peut faire avec ça, y compris. Donc là, tout à l'heure, je parlais de m'arrêter en 1600 ou je sais pas quoi, mais là, bon, je vais plutôt dire que je m'arrête en 1980 ou allez, 90. Bon, on avance au fur et à mesure, mais en tout cas, ça me dérange pas du tout d'être en retard et de pas utiliser les derniers outils. Je cherche pas à utiliser les derniers outils, mais les outils se diffusent et on utilise ce qui existe, ce qui est pas cher, ce qui est bien connu, ce qui est bien maîtrisé par les gens eux-mêmes, donc évidemment dans un contexte libre. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir la maîtrise la plus complète possible de ces outils pour être libre, c'est-à-dire pour pouvoir m'en servir comme je le veux et pouvoir même les étendre, les modifier dans le sens que j'ai envie.
Alors, justement, on a vu pendant le débat Penser Ensemble et la présentation que tu as faite de ton activité, on a vu par exemple des petits moteurs, on a vu des capteurs. Il y a une richesse et des possibilités infinies finalement.
Bah oui, c'est ça, c'est un peu ce que je disais. C'est vrai que en prenant juste, même en se limitant à, on va dire, à un set d'outils. De base, tel moteur, tel capteur, etc. On peut imaginer sans fin des nouvelles idées, parce que en fait, ce qui va être intéressant, c'est l'assemblage de ces objets ensemble et la façon dont ils fonctionnent ensemble, comment la programmation est faite et tout ça. Ça va permettre d'essayer des nouvelles choses, y compris des expériences humaines. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'avec cet assemblage, eh ben hop, on le met au milieu de personnes qui vont interagir autour de cet objet et il va se passer des choses. L'expérience des gens avec l'objet va dépendre de l'objet, l'expérience des gens ensemble va dépendre de l'objet autour duquel ils sont. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est de voir que on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, mais presque ce qui est le plus dur, c'est d'imaginer, c'est pas tant de le fabriquer, en fait.
Et c'est assez extraordinaire de voir finalement les débouchés artistiques que ça peut permettre.
Bah oui, ça c'est sûr, et on est vraiment en pleine époque de ça. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'artistes qui s'emparent de ça et qui essayent des choses, donc on essaye, en fait. Ce qui nous paraît important, c'est vraiment ça, c'est d'essayer, de tester, de donner libre cours à notre imagination, parce que c'est en faisant et en essayant qu'il peut se passer des choses, quoi. Voilà. Sinon, Donc c'est pas mal de pouvoir aller un peu librement à imaginer des choses. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont essayer de faire des automates musicaux, mécaniques, avec des objets qui tapent sur d'autres trucs. Il y a énormément de gens qui travaillent aujourd'hui là-dedans, et c'est bien parce que toutes leurs créations sont toutes différentes. Donc c'est assez riche. Après voilà, nous on a aussi travailler même donc à la fois avec le côté électronique, puis en même temps juste avec la programmation et la construction d'un objet, d'un gros objet qu'on met dans la rue comme le hurlomatique, et qui va parler avec les gens. Donc là il y a tout un jeu aussi de machines qui parlent, par exemple, et c'est assez étonnant de voir comment les gens réagissent avec une machine qui parle, parce qu'en fait ils se donnent vraiment, ils se prêtent vraiment au jeu, quoi. Ils parlent vraiment avec la machine, et il y a même plein de fois en fait ils font le tour de la machine pour voir où est le comédien, alors que bon, les phrases elles sont préenregistrées quelque part, ça s'entend bien, mais ils peuvent pas s'empêcher de se dire mais il y a peut-être quand même quelqu'un. Donc c'est rigolo, quoi. Il se passe vraiment plein de choses quand on essaye comme ça de mettre les gens en face d'outils qui sont techniques. Alors les gens ils ont maintenant beaucoup l'habitude d'avoir des objets techniques, tout le monde en a dans sa poche, etc. Mais tous ces outils sont la plupart du temps faits de la même façon, dans un but qui est toujours un peu le même, donc des buts très utilitaires de la société moderne, la consommation, la communication, c'est un certain type de communication. Et donc là, quand on fait une machine mais complètement autrement, oui, c'est déroutant en fait. Là, on se rend compte qu'on n'a pas tant l'habitude que ça en fait de voir des machines différentes. Enfin, on a tous un peu les mêmes machines pour l'instant, et c'est vrai que nous, les artistes numériques, ce qui nous amuse, c'est vraiment ça, c'est de dire mais non, mais des machines, mais on peut en faire mais plein différentes.
Alors donc tu évoquais un petit peu ces différents composants, les moteurs, les capteurs, ces machines d'une manière générale. Tu évoquais le choix du libre, elles sont programmées avec un langage qui s'appelle Pure Data. Le choix du logiciel libre, ça vient de où? Il y a des raisons d'avoir opté pour ça?
Ben oui, il y a énormément de raisons. Il y a vraiment des raisons qui sont à la fois pratiques et des raisons qui sont d'ordre plus philosophique, et qui en fait s'entrecroisent évidemment. Donc la raison philosophique, c'est de se dire oui, la connaissance doit nous appartenir, et il y a que avec cette condition là que on pourra avoir la maîtrise de la technique, plutôt que ce soit le contraire, que ce soit la technique qui nous maîtrise. Donc ça, c'est vraiment la raison fondamentale qui donne l'énergie à tous les développeurs du libre de mettre tout ce temps qui est rarement vraiment qui a vraiment rarement une contrepartie financière. Et donc c'est cette idée de dire qu'il faut mettre la technologie au service des gens et pas le contraire, et que pour ça il faut la connaître, il faut s'en servir, il faut en avoir la... Et pour ça, il faut avoir la connaissance, et la connaissance du fonctionnement même des programmes et des machines ne peut pas se faire si une entreprise a choisi pour son profit, pour son modèle économique, de cacher les plans pour pas qu'on puisse le recopier. Donc voilà, c'est là où l'opposition libre propriétaire se fait, et l'option propriétaire bloque en fait la diffusion de la connaissance, et c'est vraiment pour nous un grave problème. Donc quand il y a eu cette alternative qui s'est développée autour des années 90-2000, avec l'avènement de Linux et aussi d'Internet qui a permis de diffuser la connaissance, c'est quand même un peu aussi le média du libre, on pourrait dire, malgré tous les travers d'Internet, c'est quand même par là aussi que la diffusion de la communication se fait. Donc quand ces nouveaux outils sont apparus, moi quand j'ai vu ça, évidemment j'ai sauté dessus en me disant enfin, le monde commence, quoi, parce que les raisons pratiques, elles se sont montrées en même temps, c'est que ça marche vachement mieux. Même si des fois on pourrait croire le contraire, en réalité, moi quand j'ai commencé, j'étais plutôt au début porté par le développement de l'électronique. Et je me suis rendu compte, quand j'ai pu essayer Linux et tout ça, que c'était beaucoup plus stable, que ça marchait beaucoup mieux. Et en plus, donc, s'il y a quelque chose qui me convient pas, je peux toujours le modifier, l'améliorer, si j'y arrive. Et puis, d'autres gens aussi, et quand ils l'auront fait, ils vont diffuser cette modification, cette amélioration, et ainsi de suite. Donc, ça va très, très vite, en fait, le fourmillement du développement, de l'amélioration, des nouveaux outils, etc. Après, les autres raisons pratiques, c'est aussi que, par exemple, on est beaucoup moins dépendant des machines, des types de machines, c'est-à-dire que les logiciels, à partir du moment où ils sont libres, ils vont pouvoir être compilés sur à peu près tous les systèmes possibles. Et donc, ça nous permet de travailler avec les mêmes outils, quelles que soient les machines, et pas de devoir choisir la meilleure marque de logiciel pour telle machine. Et si cette machine-là devient obsolète ou autre, il faut changer de machine et hop, changer d'éditeur, changer d'outil, à chaque fois se reformer sur des nouveaux outils. Là non, en fait, avec l'informatique libre, on se rend compte que il y a une réelle, on va dire, capitalisation des inventions, des développements, des procédés, qui fait que on a l'idée qu'on va utiliser un outil pour faire une opération élémentaire, s'il est au point, il sera utilisé pour toujours pratiquement. On peut presque penser qu'il y a énormément d'outils qu'on utilise aujourd'hui qui sont de l'informatique libre et que peut-être dans 100 ans, si ça se trouve, ils seront encore utilisés. Alors que les outils propriétaires, c'est très très différent.
Alors ce mouvement du logiciel libre, on le perçoit bien. Est-ce qu'il y a les mêmes avancées en matière de matériel, en matière d'électronique? Est-ce qu'il y a des constructeurs qui mettent des plans à disposition? Est-ce qu'il y a le même type d'avancée que tu parlais de Linux, hein? Aujourd'hui, effectivement, Linux est relativement bien popularisé. Est-ce qu'au niveau matériel, on a le même type de phénomène?
C'est sûr que le pendant du logiciel libre, c'est ce qu'on appelle en anglais le open hardware. En français, matériel libre. Il y a le même type de mouvement. Après, en étant un peu provocateur, on pourrait dire que déjà IBM a commencé ce boulot-là dans les années 80 en ouvrant l'architecture PC qui aujourd'hui est universelle dans les ordinateurs de bureau et qui a même été repris par Macintosh pour développer ses ordinateurs. C'est déjà une des premières architectures ouvertes, on pourrait dire, même si c'était pas du tout... il y avait déjà les gens du logiciel libre, existaient déjà à ce moment-là, mais ils étaient pas du tout dans les mêmes sphères de la société. Ils étaient vraiment que dans les universités. Pour les ordinateurs, ça reste un peu. On a une architecture PC, l'architecture après pour les téléphones, l'architecture Android. On pourrait dire aussi presque que c'est une architecture ouverte parce que. Les spécifications sont ouvertes, c'est l'intérêt des éditeurs d'Android qu'un maximum de fabricants s'en emparent et fabriquent des téléphones qui sont compatibles avec ça. Après, dans le champ vraiment de la création autonome, du do-it-yourself et tout ça, il y a eu un gros développement évidemment de l'open hardware depuis 10-15 ans. Donc l'emblème de l'open hardware pour ce qui est de la fabrication électronique de cartes électroniques programmables, etc., s'appelle Arduino. Donc une architecture inventée par des Italiens qui ont fabriqué cette carte, l'ont vendue, et puis cette architecture elle est ouverte, donc tout le monde peut faire des Arduino, il y a des clones absolument partout. Et c'est un des exemples les plus connus. Après c'est sûr que dans le domaine du matériel les choses sont un petit peu différentes que dans le logiciel puisque dans le logiciel on va dire c'est essentiellement des idées, le logiciel c'est des idées actives, des idées écrites, des textes qui fonctionnent, qui marchent, donc c'est très facile à diffuser, il suffit de dire ou d'écrire et de diffuser, et hop, ça y est, c'est diffusé. Pour le matériel, évidemment, c'est très différent. Il faut fabriquer, et en plus, fabriquer de l'électronique, quand il s'agit vraiment des puces, c'est malheureusement, pour l'instant, réservé à des très grosses industries, quoi.
Alors, je m'appelle Gérard, donc j'ai découvert ce matin cette présentation. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'informatique, mais j'ai trouvé le travail réalisé formidable, quoi, et très heureux d'être ici aujourd'hui, quoi.
Ben voilà, moi je suis là à la fin de la matinée en attendant le repas, et ben je suis très contente d'être venue malgré le gros rhume et la petite grippe qui m'aurait laissé à la maison volontiers. Je suis émerveillée par ce que j'ai entendu, j'ai compris beaucoup de choses, je ne saurais pas vous répéter, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est, je pense que si je prenais du temps et de l'énergie, certainement que je pourrais beaucoup plus rentrer dans le sujet, ne serait-ce que l'utilisation des mécanismes, etc. Ça m'enchante vraiment. J'espère que je reviendrai, et dans un esprit aussi tout à fait qui me convient, puisque effectivement la souveraineté personnelle et citoyenne, c'est sûr que ça c'est un sujet qui me tient à cœur aussi beaucoup. Donc voilà, c'est une belle histoire qui commence pour moi. Mais bon, j'étais déjà quand même j'avais déjà Linux, donc j'étais déjà depuis un certain temps déjà ouverte à ça, et depuis longtemps, mais voilà, ça fait que continuer. Voilà.
Je me présente, Thomas. Je suis étudiant en master 2 métiers de la culture à Lille 3. Intéressé par la question des arts numériques. Et je venais ici par rapport à MetaLunette, par rapport au projet de MetaLunette, pour en savoir plus, pour savoir un peu plus de la façon dont tu présentes en fait l'association et puis sa structure. Donc voilà, c'était très bien, c'était un très bel échange. Il y a un aspect technique qui a été assez pédagogique, qui était intéressant à démontrer. Et puis on a discuté de pas mal de choses autour des questions du numérique, de la pédagogie et du projet de MetaLu. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Et puis et c'est cool de pouvoir s'intéresser comme ça à des projets assez particuliers et assez innovateurs.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale avec les Hard Girls. Groupe originaire de San José, les Hard Girls nous offrent Dulcet Tones, paru sur le net label Quat on Quat Records. C'est un bon moment de rock'n'roll. Gimmick accrocheur au possible, solo noisy et mélodie entêtante, rien de tel pour bien commencer la journée.
I need
Nous nous acheminons maintenant vers la fin de ce micro-rebelle hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Nous allons terminer par un spot. Oh non, pas un spot publicitaire. Vous savez que Micro-Rebelle, tout comme PFM, ne diffuse aucune publicité sur ses antennes. Non, non, il s'agit d'un spot qui est diffusé par l'ensemble des radios associatives membres de la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, contre la baisse des emplois aidés. Dans l'ensemble du secteur associatif, ce sont 800 000 jeunes qui vont se retrouver en grande difficulté. Les radios associatives accueillent et forment de nombreux jeunes en emploi aidé qui contribuent à l'assise des radios concernées. À titre informatif, cependant, 80% des emplois aidés dans les radios associatives ont été pérennisés. C'est donc l'objet du spot qui va suivre. Je vous laisse l'écouter et puis nous terminerons par de la musique libre. Et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Votre émission live s'est arrêtée. Votre animateur préféré nous a quittés. Son emploi aidé n'a pas été renouvelé. Ainsi, le gouvernement en a décidé. Faute d'emploi aidé, votre radio de proximité est en danger. Dites-le à votre député.
Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Quel bonheur d'avoir voté pour vous. On est heureux comme des fous. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Privant de nos emplois, vous nous mettez bien dans le caca. Merci Macron, merci Macron, merci Macron. Merci Macron. Soyez sûrs qu'un jour viendra, on vous remerciera de tout ça.
Votre radio de proximité est en danger. Dites-le à votre député, réagissez.
Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.